Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Bonjour, je suis Eddy.
Nous sommes en août, le mois qui va très vite parce que... Et vous écoutez, papa, à quoi tu joues ? Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le 46e épisode déjà, le 46e épisode de Papa Codu, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Vous avez peut-être entendu en pré-générique, si vous êtes attentif ou si vous ne le passez pas, une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors d'abord celle d'Arnaud. Arnaud, bonjour Arnaud, ça va bien ?
Ça va bien, ça va bien. Alors pour garder la coutume, il fait beau, il fait chaud, en parlant météo.
Je ne parlerai pas de météo, moi. Je vais plutôt vous dire. Donc cette troisième voix, c'était. C'est toujours Eddy. Bonjour Eddy, comment vas-tu ?
Bonjour, très très bien, enchanté. Je vais pas parler de météo, mais je vais parler de moustiques, parce qu'on a une petite invasion de moustiques ici.
Donc voilà. Donc,
c'est limite toujours ce même qu'il faut sortir.
Voilà. Donc je précise que vous êtes physiquement à la même place, hein, Arnaud et toi.
Oui. Et donc c'était juste pour que voilà que quand je parle de moustiques de la taille de d'oiseaux et autres qu'on me croit pas, eh bien voilà, j'ai ramené un témoin.
Il est donc temps de passer donc au jeu du mois. Alors, premier jeu du mois, je vais donc vous parler d'un jeu qui s'appelle What Remains of Edith Finch. Le journal intime, cet objet par lequel on peut revivre par procuration les moments de sa vie que l'on a couché dessus. Voilà le principe du déroulement de la narration dans What Remains of Edith Finch. Un jeu narratif comme je les aime. Alors, qui est Edith Finch ? Edith, c'est la descendante de la famille Finch. C'était un peu logique. Oserais-je dire, la seule descendante ? Je ne sais pas, mais déjà, ça commence à envelopper de mystère ma prise de parole. Edith, elle retourne dans sa maison d'enfance dont elle a hérité parce qu'elle a besoin de réponses, la pauvre. Dans sa vie, elle se rend bien compte que quelque chose ne tourne pas rond dans sa famille. Les pauvres bougres ont une tendance à ne presque jamais mourir de vieillesse, et toujours dans des circonstances pour le moins étranges. Edith veut donc découvrir ce qui s'est vraiment passé, d'autant que dans cette famille, quand quelqu'un meurt, sa chambre est scellée. Il faut donc construire d'autres chambres pour les nouveaux arrivants de la famille. C'est ainsi qu'Edith va retracer son arbre généalogique en commençant par le bas de la maison pour finir tout en haut, dans une tour complètement improbable dont on sait qu'elle ne peut pas tenir debout dans la vraie vie. Et pour retracer l'histoire de chaque membre de la famille depuis que cette famille est arrivée dans l'état de Washington, vous devez entrer dans chacune des chambres scellées via des passages cachés, des mécanismes secrets ou des détours hasardeux. C'est magnifique, la pâte graphique et la conception font de cette maison une vraie maison qui fut autrefois habitée. L'idée d'avoir scellé chaque chambre la laisse dans l'état dans lequel elle était à l'époque de la mort du membre de la famille. Hop, je fais une petite pause parce que j'ai oublié de mettre le stream comme il fallait. On peut donc passer du temps à scruter chaque pièce afin de connaître un peu plus le Finch qui a vécu ici. Ses goûts littéraires, ses habitudes, ses farces, son âge, etc. C'est crédible, c'est tellement crédible que c'en est presque vivant. C'est bien là un terrible tour de force que Giant Sparrow, le studio qui nous a donné entre les mains le fabuleux The Unfinished One dans l'émission de Papa Quoi Tu Joues numéro 5, que je vous oblige presque de faire pour pouvoir apprécier à sa juste valeur l'un des passages du jeu. Tout est narration dans ce jeu narratif. On sent que la moindre petite chose a une histoire. Quant aux différentes histoires elles-mêmes, elles sont surprenantes, touchantes. Les Finch ont tendance à mourir jeunes. Et donc, plus le Finch est jeune, plus la gorge est serrée. Et mon attitude vindicative quand vient le moment fatidique. Chaque histoire est un parti pris de narration, tantôt graphique, tantôt narratif, tantôt toujours thématique. De plus, le travail visuel du texte y est remarquable, et ça j'y suis fortement sensible parce que c'est pas souvent. Elle n'est jamais la poésie est omniprésente, et bien que la mort soit quelque chose de violent et fort désagréable, elle n'est jamais montrée directement, et les métaphores s'enchaînent joliment, ce qui aura pour effet d'augmenter la sensibilité de la corde sensible de certains. On a envie de parler de ce jeu dans ses moindres détails, tellement il en offre. Mais si jamais je fais ça, c'est ma tête au bout d'une pique que vous voudrez voir, car je vous aurais dévoilé tout le jeu. Et ce n'est qu'un, et c'est un jeu qu'on ne fait qu'une fois, mais dont on se souvient longtemps. Alors impossible de ne pas penser à The Vanishing of Ethan Carter. Les similitudes sont nombreuses. S'il est vrai que les cailloux d'Edith Finch sont moins réalistes, sa poésie, qu'elle soit visuelle ou mentale, surpasse largement le reste. Le jeu n'apporte pas toutes les réponses attendues, mais c'est pas vraiment grave, même si sur le coup ça peut paraître un peu frustrant, parce que une fois qu'on l'a fini, on repense à tout ce qu'on vient de vivre pendant 2h30, et c'est là que c'est le plus beau. Oui, j'ai dit 2h30, c'est un peu court vu de l'extérieur, mais ce n'est pas le sentiment que l'on en a de l'intérieur. Malgré ce que je viens de dire, j'ai pas eu l'impression de manque, mais celui de complétude. Une fois le jeu fini, on a la sensation d'avoir fini quelque chose de très dense et qu'il va falloir mettre du temps pour digérer une telle quantité de narration. Donc, même si le jeu coûte 20€, pour moi il les vaut largement, la rejouabilité est nulle. Mais je ne m'interdis pas de revenir me balader dans la maison des Finch. Juste pour l'ambiance et son côté biscornu aux nombreux passages secrets. C'est un jeu narratif que je vous recommande de faire d'une seule traite à la place d'une soirée télé. Rien ne vous empêche d'avoir du public, mais c'est en y jouant qu'on s'y implique le plus émotionnellement. C'est un jeu visuellement tout public, mais les ados, en dessous de 14-15 ans, n'y verront que peu d'intérêt à cause de certaines métaphores dont les clés de compréhension ou d'accès émotionnel nécessitent une certaine expérience de la vie. Pour moi, plutôt pour des adultes, en fait. Mais non, mais il n'y a pas de vraie thématique adolescente, mais en tant qu'ado, je me serais ennuyé, quoi. Donc, ça parle de famille, de parentalité, de transmission, de tradition, de personnalité, d'intimité, et tout ça mélangé en même temps. Donc voilà, ça s'appelle What Remains of Edith Finch, et c'est dispo sur Windows, Steam seulement, et PlayStation 4. Voilà, j'espère vous avoir donné méchamment envie, parce que ce serait dommage que ce n'est pas le cas.
Au final, ça revient à se faire une petite soirée ciné, quoi.
C'est ça. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus de choses avec ça plutôt qu'avec un film.
C'est plus interactif.
Mais même dans tout ce qui est raconté, j'ai pas l'impression que c'est 2h30 qui viennent de s'écouler. J'ai l'impression que, il y a beaucoup plus qu'une soirée qui s'est écoulée parce qu'il y a vraiment énormément, énormément de choses à voir, à découvrir, à imaginer. Parce que c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on imagine. Comme je l'ai dit, chaque objet a une histoire et ça se sent. Ceux qui peuvent voir ce qui est en train de passer là sur YouTube Gaming, là on voit un frigo, on voit qu'il y a une histoire sur ce frigo. Il y a des choses qui sont accrochées, il y a des noms qui sont mis, les couverts sont étalés un peu partout dans la pièce et on peut retracer ce qui s'est passé. Tout. T'as une histoire et rien n'est laissé là au hasard. On peut y passer beaucoup plus que 2h30 à éplucher tous les détails.
Alors justement, c'était ma question, puisque tu dis 2h30, mais 2h30 parce que c'est... C'est 2h30 ou si tu vas commencer à y chercher tous les moindres détails, ça peut prendre plus de temps.
Non, alors... 2h30, c'est quand tu le fais à vitesse normale. Quand t'arrives dans une pièce, tu prends un peu le temps de regarder un petit peu partout, de voir ce qui... Voilà. Mais t'as rien à trouver, hein. Enfin, t'as rien à trouver. Tu vois, t'as pas de trucs cachés, t'as pas... Voilà. Mais tu peux passer du temps à juste observer tout ce qui a été mis là. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne t'apportera strictement rien sur l'histoire, sur le déroulement du jeu, mais tu sais qu'ils sont là parce qu'il y a quelqu'un qui les a mis là, parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison, parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette pièce, parce que c'était cette personne-là qui était dans cette pièce, ou peu importe quoi d'autre, mais voilà.
Donc ça amène un peu plus de profondeur, quoi.
Beaucoup plus de profondeur, mais c'est absolument pas... Enfin, je suppose que j'ai vu des choses qui étaient même peut-être pas voulues, que moi j'ai commencé à imaginer, mais c'est pas grave, parce que voilà, cette maison, elle est tellement improbable, tellement remplie, tellement et vide à la fois, parce qu'il y a personne dedans. Mais voilà, et tu vas comme ça revivre chaque moment de chaque moment avant la mort de chaque membre de la famille pour essayer de voir comment est mort, pour essayer de percer le mystère de qu'est-ce qui fait que tout le monde meurt, presque tout le monde meurt jeune dans cette famille.
Ok.
Voilà. Alors, passons donc à un jeu tout choupinou avec des fleurs partout. Ça s'appelle Mortal Kombat.
D'amour et de poésie.
Alors vas-y Arnaud, je te donne la parole parce qu'on s'était dit que, alors comme on l'a tous les deux, moi j'ai la version XL, toi t'as la version X.
C'est ça.
Donc on s'était dit qu'on en parlerait tous les deux, mais je te laisse d'abord la primauté de présenter ce jeu inconnu de tout le monde.
C'est ça. Donc c'est ça, c'est très bien, c'est fleurs bleues, c'est plein d'amour. C'est comment dire, c'est une entente fraternelle où des oiseaux chantent, ouais, et
on se tape gentiment l'épaule.
Sur la partie partout. Donc non, plus sérieusement, bon voilà, hein, c'est un bon gros jeu qui tâche. C'est donc un jeu de combat, hein, pour ceux qui connaîtraient pas Mortal Kombat bizarrement.
Voilà.
C'est ça. De combat mortel. Ma foi. J'ai pris quelques notes. Moi, la première chose que je veux dire à propos de ce jeu,
est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu de ton micro,
pas ouais, marqué, ouais. C'est le jeu, le mode solo, parce que au final, donc avec mon épouse, on a passé quelques soirées dehors et on a pris ce mode solo en disant, tiens, après s'être fighté 2-3 fois l'un avec l'autre, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir ce que c'est que le solo. Et là, quelle surprise on a eu de tomber sur un mode solo scénarisé où, en fait, on a passé toute la soirée et la soirée d'après et la soirée encore d'après à finalement profiter de ce mode solo, de cette histoire, où pour une fois, enfin, en fait, je comprenais pourquoi tout le monde se tapait dessus.
Ouais, bah oui.
Vas-y.
Non, j'acquiesce, vas-y.
Parce que bon, on a, enfin, j'ai vu ce formidable film Mortal Kombat avec Christophe Lambert il y a un certain temps, on attend certain. Mais bon, réellement, le jeu Mortal Kombat, je comprenais pas bien ce qui se passait derrière.
Ouais.
Et donc là, être plongé directement dans un, finalement comme dans un film, finalement pouvoir être intégré dans l'histoire par une succession de combats, certes, mais qui sont finalement intégrés dans une immense cinématique, là, c'était un grand plaisir. On a pris vraiment un grand bien marré pour le coup, tout du long de cette histoire où on apprend finalement ce qui se passe. Les combats, les revenants, qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde se tape dessus.
Pour résumer un petit peu, donc quand on commence le mode histoire, donc on a un ça met du temps à commencer, hein. Mais donc on a une cinématique qui nous dit les guerres entre les dieux, entre les mondes, etc. Et comment le Mortal Kombat a été mis en place. Une fois et les trahisons et tout ça, et ce qui a pu se passer, mais très très rapidement, hein, dans les précédents Mortal Kombat avec l'empereur Shao Kahn qui a été qui a fini mort parce que les dieux lui ont ôté la vie parce qu'il avait triché. Voilà. Et donc, nous, on arrive là. Et en fait, on arrive, mais pas dans le présent. Le début de l'aventure se passe dans le passé. Donc, avec les personnages qu'on connaît, entre guillemets, jeunes. Donc, tels qu'on les a connus dans les précédents Mortal Kombat. Et donc, une fois le premier chapitre passé, eh bien, on s'aperçoit que du temps a passé, une vingtaine ou trentaine d'années, et que du coup les personnages ont vieilli, certains sont morts, et voilà. Et après l'histoire continue. Mais à aucun moment, et c'est ça que j'ai trouvé ça formidable aussi, parce que moi, ma femme joue pas trop à Mortal Kombat, elle est pas. Donc, je me suis dit, je vais me prendre Mortal Kombat parce que ça me fait marrer. J'aime bien Mortal Kombat, mais voilà, je sais que je vais pas y jouer énormément de temps parce que c'est quand même assez limité quand il joue tout seul. D'autant que j'ai pas le PSN, je suis pas abonné PSN. Et cette scénarisation, en fait, jamais tu ne choisis un personnage, on t'impose à chaque fois le personnage et tu vas suivre l'histoire de ce personnage dans l'histoire qu'on t'a scénarisée pour que tu comprennes qui trahit qui s'est fait prendre au piège et qu'est-ce qui a poussé la trêve, parce qu'il y avait une trêve entre l'outre-monde et le royaume Terre, et qu'est-ce qui a poussé à ce que cette trêve soit brisée.
Et c'est ça, finalement, voilà. Conclu.
Voilà,
et,
voilà.
C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, c'est le côté... on t'impose un joueur, en fait, dans l'histoire. Au début, ça m'a un peu surpris. Genre, merde, je peux pas choisir. Et puis au final, ouais, mais non, parce que ça va avec l'histoire.
Ouais.
Et puis finalement, comme, ouais, c'est ça, c'est une suite de combats cinématiques. Au final, ça s'enchaîne super bien. Et en plus, l'avantage, c'est que ça te permet de découvrir les personnages, et des personnages auxquels tu n'aurais peut-être pas forcément été joué avec avant un certain moment.
Ouais.
Donc du coup, ça te pousse un peu à aller voir, découvrir le style de combat de chacun. Et c'est vrai que c'est fort agréable. Moi, on s'est vraiment bien marré là-dessus, quoi. Donc c'était mon premier point vis-à-vis de ce jeu. C'est la première fois que je voyais vraiment un truc aussi bien scénarisé et d'avoir un film qui, en plus, les cinématiques sont plutôt jolies, donc c'est bien réalisé. Et voilà, donc ça, c'était vraiment le truc que j'ai beaucoup aimé. Après, donc j'ai la version X sur laquelle on a pris quand même des DLC, parce que justement, après avoir fini l'histoire,
t'as la version XL, quoi.
J'ai joué avec Tania.
Oui.
Et du coup, on voulait pouvoir rejouer avec Tania, et donc du coup, on s'est pris un DLC.
D'accord.
Donc du coup, on a profité d'avoir Jason aussi, le Predator, et puis, je me rappelle plus qui est le quatrième.
Leatherface.
Alien.
C'est Alien.
C'est ça.
Il y a aussi Boraicho. Et puis, je sais plus. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est...
Et toi, de ton côté, tu dois aussi avoir Alien, etc. Parce que j'ai vu qu'il y avait 4 autres personnages que j'avais pas.
Ah bon, alors c'est ça, c'est Boraicho que tu n'as pas, et j'en ai peut-être d'autres. Enfin, je vais te dire ça, vas-y, continue.
Bon, il y a quand même ces DLC, donc ça nous a coûté un 5$ canadien supplémentaire là, pour avoir 4 personnages. Bon, c'était vraiment parce que Tania, on l'aimait bien. Vis-à-vis de ça, je trouve que bon. Après, je sais pas combien ta version XL t'a coûté, mais bon, est-ce que ça
vaut. Je l'ai en promo, alors j'en sais plus.
D'avoir le XL.
Je l'ai eu en promo, donc. Franchement, elle m'a pas coûté cher, parce que. Pour que je me dise, je me prends un Mortal Kombat pour jouer tout seul pendant une demi-heure, une heure, et puis voilà, c'est qu'elle m'a pas coûté cher.
En tout cas, voilà, découverte d'un très bon jeu vis-à-vis de ça. Au niveau du jeu en lui-même, finalement, on arrive à placer des coups assez facilement. On s'aperçoit que la mécanique de jeu, c'est pas avant ou pas arrière, plus un bouton au pif, et généralement, t'as pris un truc assez sympa. Alors, je vais faire une étape, à côté de moi. Notamment, il est assez simple de faire, par exemple, des coups de téléportation avec Scorpion, où finalement tu passes d'un écran à l'autre, parce que là, forcément, on peut aussi faire discuter l'un avec l'autre et Eddie a trouvé très marrant de abuser, de surabuser de la téléportation de ce personnage.
Ouais. C'est très bien la téléportation. Je sais pas ce qu'il fait dire ça. Je suis jaloux parce que ton
c'est ça.
Pas se téléporter.
C'est ça. Donc voilà, donc je croyais que c'était c'est quand même facile de passer des coups donc pas forcément des enchaînements de malades, mais je trouve qu'on prend très facilement plaisir à jouer parce que tu peux finalement placer des coups assez sympas, spectaculaires et tout ça assez rapidement. Après j'aime bien aussi les nuances que tu as au niveau des personnages, parce que finalement t'as quand même pas mal de personnages et en plus tu peux prendre 3 nuances. Et justement, c'est là où ces nuances, finalement, tu peux les avoir très rapidement, parce que justement, ces coups spéciaux, là, que je disais, faciles à placer, eh bien, sont justement les coups spéciaux des nuances des personnages. Au final, tu peux commencer à jouer avec Sub-Zero, et puis, malgré tout, avoir 3 manières de jouer différentes, parce que 3 spécialités différentes, avec des coups spéciaux que tu vas pouvoir intégrer très rapidement.
Voilà, c'est pour être bien clair, en fait, quand tu choisis un personnage, enfin les variantes dont tu parles, ce sont les styles de combat. Chaque personnage a 3 styles de combat différents, donc avec des coups communs et des coups différents. Et donc à chacun de voir le style de combat qui lui correspond le plus, et tu peux passer, enfin déjà rien que pour tester tous les personnages et tous les styles de combat. Tu passes un certain temps.
C'est ça, tu peux y passer facilement un temps certain, ça c'est clair. Et puis, vraiment, ça reste agréable parce que je le trouve percutant. Les coups sont sanglants en plus, sont percutants. On est à la limite à voir quand tu as les coups spéciaux rayon X là. Bon, ça s'en est même improbable parce que après avoir brisé la nuque, brisé le truc et percé le cœur, le gars il se relève, tu fais c'est bizarre. Mais bon, à la limite tu t'enfuis, tu l'acceptes parce que c'est Mortal Kombat. Quoi.
Voilà, c'est ça, c'est Mortal Kombat et donc ouais.
Mais les coups sont percutants, je trouve que c'est malgré tout, ça pourrait très facilement partir en brouillon et je trouve que ça ne l'est pas. Tu vois ce qui se passe, c'est voilà, et la vitesse et je trouve bien faite. T'as aussi voilà des personnages qui sont rapides, qui sont plus lents mais qui tapent comme des brutes. Je trouve que c'est bien équilibré vis-à-vis de ça, et c'est finalement un plaisir de se taper dessus là par télécommande interposée.
Ouais.
C'est je le trouve vraiment bien fait, bien percutant et finalement assez agréable en termes de jouabilité, de maniabilité.
Mais moi...
j'ajouterais là-dessus aussi que il y a le comment dire, au niveau des graphismes, il y a ce petit plaisir de voir ce qui se passe en arrière-plan.
Ouais, c'est assez détaillé. Ouais.
Vu qu'on était plusieurs, à jouer, donc il y en a deux qui jouaient et les autres qui regardaient.
Ouais.
Et en fait, tu regardes, du coup, tu commences à regarder ce qui se passe derrière.
C'est tes enfants qui regardaient, c'est ça ?
De quoi ?
C'est tes enfants qui regardaient derrière, c'est ça ?
Bien sûr.
Faut les former jeunes, à Mortal Kombat.
Non, bah alors, attends, alors juste petite parenthèse, c'est pour qu'on se replonge un petit peu dans notre nostalgie, mais je sais pas si vous étiez pareil vous les gars, mais j'ai commencé à jouer à Mortal Kombat, je devais avoir 12 ou 13 ans. Hein.
Non, moi j'étais plus vieux. Le premier Mortal Kombat auquel j'ai joué sur Game Gear et je devais avoir 15 ou 16 ans.
D'accord.
Moi je suis plutôt... j'étais pas 18 ans au premier Mortal Kombat.
Enfin, mais du coup, je me suis vraiment posé la question, tu vois, parce que donc j'ai joué aussi au Mortal Kombat tout court, le reboot sur PS3 que j'avais trouvé déjà très très bien. Mais celui-là, je l'apprécie plus parce que il a quelque chose que l'autre, enfin justement, il n'a pas quelque chose que l'autre avait. C'était une surenchère dans le mauvais goût. Au niveau des fringues, au niveau de tout ça, là les vêtements, même si ils sont quand même très fantaisistes, enfin ne serait-ce que la poitrine des femmes dans le Mortal Kombat PS3, donc dans Mortal Kombat, c'était des poitrines exacerbées et on ratait pas une occasion de déchirer un vêtement pour voir un petit peu plus d'un bout de sein. Mais pas seulement, enfin voilà, tes vêtements étaient déchirés, ils étaient pas déchirés au mauvais endroit, quoi. Et il n'y a plus ça. Là, les proportions sont redevenues à peu près humaines. Et je trouve ça quand même plus agréable parce que du coup, ton fun est vraiment focalisé sur ce qui est en train de se passer. Et ça reste de mauvais goût parce que c'est sanglant, parce que tu tranches des gorges, parce que tu coupes des doigts, parce que, enfin, bref quoi. Mais c'est moins graveleux, c'est moins.
Oui, je suis d'accord. C'est plus du coup dans le mode horreur, etc. Et je suis d'accord. Je trouve que les personnages sont juste bien proportionnés.
Ouais.
Et sont bien faits. C'est vrai que pour le coup, même avec leur costume et autres, je trouve que c'est le côté finalement humain.
Ouais.
si on veut.
Sans être réaliste du tout. Hein.
C'est ça.
Mais et du coup, c'est ce qui m'a fait dire que. Un jeune, moi, tu vois, alors après, toute proportion gardée, il faut savoir à qui tu le proposes, mais moi, ça me choque pas de jouer avec ça avec un ado qui connaît le second degré, même le 36e degré. Je pense pas que c'est un jeu qui va le choquer.
Je sais, oui, j'imagine qu'ils en auront vu d'autres, mais il faut quand même avoir une pas mal de second degré. Parce que,
oui, c'est ça.
Et après, ça apprend l'anatomie féminine, mais humaine. parce que finalement, tu sais ce que c'est qu'une colonne vertébrale, ce que c'est qu'une mâchoire, ce que c'est qu'un crâne.
Mais même
sur les non-humains.
Les autres, le Mortal Kombat précédent, je le trouvais plus gore, plus dérangeant dans le gore. Alors que là, il y a un truc qui me choque moins dans celui-là que dans les autres. Je sais pas, je saurais pas dire quoi, mais j'aurais moins de scrupules à jouer avec un ado à celui-là plutôt qu'avec celui d'avant.
Déjà, pour le coup, je pourrais pas dire parce que j'ai pas joué à ceux d'avant, mais en tout cas, ouais, peut-être parce qu'ils abusent pas trop longtemps dessus, c'est-à-dire que ça tourne très rapidement. Alors, encore une fois, je trouve que c'est très très dynamique.
Ah oui.
Donc même les rayons X, finalement, c'est c'est des passages un peu sanglants, mais au final, ça se fait vite. Mm-hmm. Hop, tu repars tout de suite sur le jeu. Les fatalities sont sympas, mais après, au final, tu passes d'un écran à l'autre. Donc je trouve que c'est pas non plus. C'est rapide, c'est dynamique, et au final, tu passes pas non plus trop de temps. Quoi.
Non, t'as du fun tout de suite.
C'est ça, c'est assez marrant là, visé. Et donc voilà, donc je reviens sur le graphisme et sur les seconds plans. Donc au final, tu t'aperçois que sur certaines arènes, t'as des mecs derrière, t'es dans un poste de police, ils sont en train de traîner des cadavres dans d'autres, t'es sur un pont et tu t'aperçois que derrière, t'as un autre combat qui se fait sur le pont. Et au final, voilà, il y a toujours un truc très marrant sur les arènes avec à regarder finalement ce qui se passe autour.
Ouais.
Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est alors je sais pas si c'était le cas dans les autres, mais la possibilité de jouer avec les décors, balancer des mamies ou des moines à la tête de l'adversaire. J'ai bien aimé aussi à chaque extrémité, t'as généralement soit un genre de lampadaire ou de nuage ou un marteau que tu peux utiliser en slow motion pour taper la tête de l'autre. C'est juste marrant en fait.
Ah oui, et juste là, parce que je suis en train de le voir là, à l'écran, pour les nostalgiques du tout premier Mortal Kombat, il y a le retour des Test Your Might, les tests de force.
Et alors pour le coup, si c'est une bonne chose,
parce que j'adore ces trucs là.
Tu martèles les boutons.
Voilà. Donc il faut appuyer le plus vite possible sur les boutons pour se faire resserrer un cercle, et quand le cercle est dans le cercle dans lequel il devrait être, quand vous arrivez à inscrire dans le cercle, et bien, il faut appuyer sur les deux gâchettes L et R pour pouvoir donner le coup, ce qui est absolument pas évident.
En fait, nous, on n'a pas réussi. En fait, on
martèle joueur,
comme le
petit joueur.
Et en fait, on attend juste que le temps s'écoule. Parce qu'on n'arrive pas en fait à et appuyer comme des fous sur les boutons et envoyer les gâchettes.
Un jour que tu si jamais un jour tu viens à la maison, je te formerai à ça. parce que il y a des techniques, tu sais. Donc voilà.
Pour dire pour la petite histoire à quel point on est pas bon. Donc Céline et moi, quand on faisait les trucs, on le faisait à deux. C'est-à-dire qu'on mettait la télé entre nous. Il y avait un qui prenait les deux boutons. Nous, moi, je prenais les deux autres. Et puis on martelait juste parce que.
Oh non. Oh.
On était obligé de le faire à deux. Mais, donc voilà. Donc pour le coup, enfin voilà. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. On passe des soirées comme ça à cette année et au final.
C'est ça qui me manque moi. C'est ça qui me manque.
On n'a pas fait le VS en ligne.
Ouais. Oui. Parce qu'on peut faire du 2 contre 2.
On est clairement pas assez bon et qu'on n'a même pas encore osé aller en ligne pour se faire tataner. Mais entre nous, ça marche très très bien.
D'accord.
J'ai beaucoup aimé aussi les tours. Parce que finalement, il y a ce aspect tour là qui est les tours vivantes qui sont renouvelées finalement tous les mois, toutes les semaines.
Toutes les semaines. Et moi, c'est ça aussi qui m'a fait garder l'intérêt du jeu. C'est parce que je peux avoir ces choses qui changent, donc je suis pas obligé de me retaper l'histoire des dizaines de fois. Je l'ai fait une fois, merci. Et après, ces tours dans lesquels donc tu as des adversaires qui changent, mais aussi des conditions de combat qui changent. Et aussi, en plus de temps en temps, sur certains combats, tu as des défis. Et pour te faire gagner des précieuses pièces. Les pièces qui te servent à débloquer des choses dans la crypte. La crypte, c'est une sorte de grand cimetière dans laquelle tu as plein de tombes. Donc, tu as différents endroits. Donc, tu as le cimetière, tu as le coin des araignées, un tombeau, enfin bref. Et chaque sépulture demande un certain nombre de pièces pour être ouverte. Et donc, si tu es un vil tricheur, tu vas regarder quoi et où, parce que dans ces tombes, en fait, tu as des fonds d'écran, tu as des croquis, mais tu as aussi...
Ah, mais ça, c'est en ligne. Je pense que pour moi, c'était totalement au hasard, le truc.
Ah, mais... je sais pas, alors. Je sais pas, parce que toi, tu m'as dit que t'avais été voir où ils étaient planqués, ces trucs-là.
Alors, non, moi, j'étais un vil tricheur et j'étais regardé pour, en fait, débloquer toutes les parties. Pour pouvoir aller récupérer l'orbe de glace de Sub-Zero, pour aller récupérer le bâton, je sais pas quoi, pour juste me balader et faire tout le truc. Mais sinon, non, je pense que pour les savoir qui, où sont les fatalities, etc., ça, je sais pas.
Voilà, donc, alors, dans ces sépultures, il y a donc des croquis machin, mais il y a aussi les manipulations pour faire les fatalities, les brutalities, si on fait start et puis pour avoir la liste des coups, on les a pas, ces trucs-là. On peut gagner aussi des fatality facile, donc on a juste appuyé sur R2 et puis un bouton et on balance une fatality, mais c'est en nombre limité. Et donc voilà, donc avec toutes les pièces qu'on gagne, eh bien il faut essayer d'ouvrir toutes les sépultures pour pouvoir gagner tous les bonus, les manips.
Sachant qu'il y en a quand même la patate des sépultures.
Ouais.
Et il y en a, je crois que le moins cher c'est 700 pièces, le plus cher c'est 6200, je crois. Mm-hmm. Donc sachant que, enfin moi, j'ai dans les 6200 j'ai eu des trucs tout pourris, j'ai eu des fatalities quoi.
Ouais, c'est pas le prix qui vous indiquera ce qu'il y a dedans.
non. Donc, mais je trouve que c'est voilà le côté crypte est pas mal. Mais du coup, je revenais sur les tours vivantes parce que moi j'aime beaucoup certains handicaps et bonus que tu peux avoir. Et notamment, il y a des trucs avec par exemple la gravité altérée.
Ouais.
Au final, en fait, tu te mets à flotter un petit peu dans l'air. Et donc, au final, si tu te débrouilles bien vers la fin, parce que c'est de plus en plus, enfin, c'est de pire en pire.
Ouais.
En fait, tu peux finir par faire de la jaune, jongler en fait, c'est d'ailleurs le symbole de la pesanteur altérée. Au final, tu passes ton temps à renvoyer en l'air l'adversaire. Et au final, c'est marrant, quoi. Surtout que tu dis, en gros, t'es sûr de perdre une fois que t'es en l'air, tu peux rien faire. Mais en fait, non, tu peux faire des. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est des breaks où justement tu peux réussir à bloquer le coup malgré tout tout en étant en l'air.
Ouais.
Et ça te permet de faire en plus toi d'avoir des bonus.
Oui. Oui, parce que c'est mine de rien, on dit qu'il y a du fun tout de suite dans Mortal Kombat, mais quand on s'y intéresse un petit peu, c'est un jeu mais hyper technique. Il y a des tas de subtilités, si on y passe du temps, hein, mais il y a des tas de subtilités à comprendre et à appliquer qui fait que un combat mais peut être hyper jouissif et retourner une situation d'un revers de main, et ça peut être assez incroyable quand on maîtrise, ça peut être assez incroyable. Mais déjà de base, quand on n'y connaît rien, on a vraiment du fun tout de suite. Je reviens juste sur la version XL, donc j'ai les plus. Hein. Donc la version XL, ça comprend presque tous les costumes des personnages, les fatalités classiques, donc celles qu'il y avait dans le premier Mortal Kombat. Mais alors il y a aussi Goro, Jason. Alors,
moi, aussi...
D'accord, Jason, le tueur de Vendredi 13, le Predator. Tanya, Tremor, et aussi donc Boraicho, Triborg, qui est un perso 4 en 1, qui est Cyrax, Sector, enfin les deux, tous les robots. La version robotique de donc c'est Cyber Sub-Zero, et voilà, je crois que c'est tout.
D'accord. Voilà. Mais et puis alors mention spéciale parce que c'est pareil, je trouve qu'ils ont réussi parce que tu sais on a joué un peu avec Vendredi 13 et Predator, ouais. Et je trouve qu'en plus ils ont réussi à bien intégrer les personnages. Enfin, je veux dire, c'est génial de jouer avec Vendredi 13. Tu vois vraiment, tu sais, le ouais, mastodonte ouais. qui a peur de rien, ouais. Qui amène avec sa machette là, et ouais, moi, c'est assez marrant de jouer avec lui.
Moi, il y a juste l'alien que je trouve pas formidable, mais à part ça.
Ouais. À l'alien, du coup, moi, je l'ai pas testé, mais le Predator où voilà, tu peux devenir invisible, ah bah, etc. Oui. Bon. L'intérêt où tu peux balancer le laser, mais franchement, jouer avec Vendredi 13, enfin, le Jason de Vendredi 13, c'est génial.
Ouais.
En tout cas, grand plaisir à jouer chaque personnage, ils ont vraiment un truc en plus.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà, ils ont vraiment une différenciation, on a l'impression d'incarner le bonhomme. Mm-hmm. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Donc, ouais, je savais pas, après, le personnage qui fait ça, c'est. La bande son que je trouvais plus sympa aussi. Mm-hmm. Donc après voilà les fatalités qui je trouve quand même bon, il y en a certaines qui je trouve un peu bof, d'autres que je trouve vraiment géniales. Tu sens qu'ils ont quand même été chercher pas mal d'imagination pour les différentes manières de défoncer les gens.
Je sais pas si c'est ultra sain de la part des deux joueurs. Je sais pas qui t'ont fait appel.
C'est vrai que pour avoir ce genre d'imagination, je ne sais pas si tu dois être sain d'esprit, je sais pas.
Oh, mais si, t'inquiète.
Mais voilà, il y en a quand même certaines qui sont assez imaginatives et assez marrantes à voir. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, donc, c'est vrai que chaque partie est assez différente. Tu peux jouer finalement, jouer avec le décor, jouer avec les spécialités des personnages, etc. Ouais. Et finalement, ça lui donne une durée de vie qui est finalement non négligeable. Plus les tours, etc. Et voilà, je trouve ça intéressant. Après, les guerres de factions, je dois avouer que j'ai pas bien tout saisi vu que je joue pas en ligne.
Non, mais ouais, c'est assez anecdotique.
Mais je dirais que c'est pas nécessaire pour profiter du jeu. Quoi. Donc, ouais. Là, ça fait ouais, quelques temps qu'on s'était frité tous ensemble, là, avec les personnes qui étaient ici. Et au final, bon, Eddie nous a mis notre route à tous, avec sa téléportation à deux balles de scorpion, là.
Mais tu dis ça, que c'était lui.
Bon, ok. Donc, on retrouve Mortal Kombat pour 20... Alors, 20 euros si vous prenez le Mortal Kombat X ou 40 euros si vous prenez le XL. Mais, enfin, moi, le XL... Enfin, alors, j'ai eu une promo sur le PS Store. Hein. Donc, voilà. Après, il est dispo aussi sur Steam et sur Xbox One, j'imagine. Voilà. Eddie, donc ça va être enfin à toi. Il parle beaucoup, Arnaud.
Oui, mais ça change pas. Hein. C'est...
Donc vas-y, toi, tu vas nous parler de.
Donc je vais vous parler de Nier Automata, donc, qui est un jeu de Yoko Taro, qui a fait Drakengard, en 3, les différents Nier en fait, et qui est développé par Platinum Games et qui est édité par Square Enix. Je vais être volontairement très très évasif sur l'histoire. C'est un scénario à tiroir, un rebondissement.
Approche-toi du micro. Parce que... ah, ouais.
Je vais être volontairement voilà. Évasif concernant l'histoire. C'est un scénario qui a rebondissement et à tiroir. C'est normal. Mm-hmm. Donc, alors, comme je disais, c'est un jeu de Yoko Taro, donc il fait partie du système Yoko Taro. Le jeu est une suite, pas forcément directe, parce qu'il se passe très longtemps après. Mais de ses jeux précédents. Par contre, pas besoin d'avoir peur, il est nullement bon d'avoir fait les jeux précédents pour comprendre ce qui se passe. Ça se passe dans un futur qui est très 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 lointain. Mm-hmm. Par contre, ceux qui ont fait les autres jeux vont voir tout plein d'œil, un petit peu partout, pour leur dire « Ah oui, mais ça, ça me rappelle telle chose », et des personnages qu'on a déjà vus. Donc voilà, l'histoire en elle-même, en fait, comme je disais, ça se passe dans un futur très lointain. Donc la Terre a été attaquée par une race alien qui a envoyé des machines pour pouvoir prendre le contrôle de la planète. Du coup, les humains, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit des androïdes pour se défendre et ils se sont très courageusement barrés sur la Lune. Ce qui fait qu'actuellement, sur la Terre, il y a en gros des machines fabriquées par des aliens et des androïdes fabriqués par des humains. Donc c'est un petit peu le combat en robot contre robot. Donc le jeu, lui, est un action RPG. Voilà, mais qui se paye le luxe d'avoir des phases de shoot'em up, mais aussi des phases de shoot'em up, mais avec deux sticks. C'est-à-dire avec un stick, on contrôle le déplacement du personnage, et avec un autre stick, on contrôle l'orientation du tir. Mm-hmm. Des phases en vol sont utilisées via un module de vol, qui sont scénarisées, qu'on peut faire à... Le jeu est un action RPG, c'est important. On contrôle deux androïdes. Premièrement, on contrôle l'androïde féminin qui s'appelle Kubi. Puis l'androïde masculin qui s'appelle 9S.
On a tout.
Voilà. Mais les contrôles ne sont pas vraiment alternés au début. Je ne peux pas te dire, tu contrôles par Android, deuxième, et tu fais le jeu une première fois avec Android, puis tu fais le jeu une deuxième fois avec le deuxième Android. Sachant qu'on ne passe pas tout le temps ensemble. On pense pas forcément la même chose. Ils n'ont pas forcément les mêmes relations avec leur chef. Ce qui fait que les deux parties sont vraiment intéressantes. Ils ne font pas du tout les mêmes choix. Donc ces androïdes-là sont des androïdes en gros public. Androïdes non électriques. Ils sont directement reliés à une base lunaire. Hein, avec le chef très très militaire. Faut respecter les ordres. Faut pas avoir de sentiments. Faut ne pas réfléchir parfois. Donc les phases d'action RPG, ça se déroule dans un monde ouvert. Bon, rien à voir avec un Zelda World, c'est un petit monde ouvert, hein, c'est pas un truc là. Mais tu peux te balader dans ce monde-là sans aucun temps de chargement. T'as juste temps de chargement quand tu lances le jeu, quand tu sors, sinon t'as pas de chargement. Le combat, c'est vraiment assez dynamique. Parce qu'en fait, t'as une difficulté, donc t'as un choix de faire le jeu pas spécialement très très beau tout le temps. Il y a des phases qui sont magnifiques, mais il y a des phases où c'est vraiment dur. Mais ça rend le jeu vraiment très fluide, et les phases de combat sont vraiment très très difficiles. Pour donner un exemple, on a un pod qui nous accompagne qui permet de tirer, donc avec un viseur, il y a quelque chose qui flotte, qu'on peut voir dans les images. Dans notre équipe, on peut battre avec des armes de corps à corps. Il y a 39 armes de corps à corps que tu peux faire. Une arme qui les attaque légère et une arme qui les attaque lourde, il faut changer de combat en plein combat. En fait, plus cette preuve préparée, il faut changer. Ouais, c'est ça, c'est hyper dynamique. Tu peux vraiment ne pas faire vraiment ce que tu veux, qu'on voit les images. C'est aussi un jeu d'exploration. On dirait pas comme ça, même si l'open world est limité, il y a parfois des murs invisibles. Ouais, parce qu'en fait, bon, le monde est dévasté, hein, donc du coup, il y a des bâtiments en ruine, et en fait, dans certains bâtiments, tu peux rentrer, et dans d'autres, tu ne peux pas.
Il n'y a pas de porte,
il y a une ouverture en fait, donc il faut tester des ouvertures. Tu peux rentrer dans des ouvertures, des fois, tu peux pas.
C'est ça.
C'est un petit peu dommage, là on voit limite.
Ils auraient pu faire un message. Désolé, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez pas eu le temps de développer ce bâtiment.
Non, en fait, c'est vraiment. Ils ont vraiment essayé de faire un monde clair, mais. Il y a des endroits où t'as des murs invisibles, du coup.
Faut faire avec.
Niveau RPG, parce que c'est quand même, je parle de la partie action, mais je parle de la partie RPG. Donc en fait, nos androïdes, c'est des androïdes, c'est des robots, eux, les customiser avec des cubes. En plus, ils ont une capacité de mémoire qui leur sont propres, une capacité de stockage mémoire balle. Alors les puces, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ça peut augmenter la capacité d'attaquant au corps à corps, augmenter la capacité de tir, tu peux faire des parades un petit peu à la Metal Gear Rising, faire un entraînement à la Bayonetta, faire des attaques à ondes un petit peu à la Zelda quand la traite une famille qui part, tu peux faire des qui sont plus grandes, tu peux éviter de prendre des enchaînements de coups avec une période d'invulnérabilité. Tu peux vraiment faire énormément de choses, t'as beaucoup trop de puces par rapport à la place qui est disponible. Donc en fait, il faut faire un choix. Sur ça, le jeu en fait te propose 3 builds que tu peux activer facilement dans les options. En fait, tu peux en préparer un plus pour l'exploration, puis en préparer un autre plus pour le combat, et switcher entre les différents builds.
Oui, d'accord.
En combat ? En combat. Tu peux switcher, mais vraiment très facilement, dire « Ah bah attends, là... mon build où je me déplace beaucoup plus rapidement pour tracer au niveau de la carte. Et en fait, tu peux vraiment faire ce que tu veux, mais il faut quand même choisir ses puces pour avoir une taille. Les tailles qui sont aléatoires. Donc, t'as les puces optimales qui sont coupées par un petit losange, la taille peut pas aller en dessous. Quand la taille peut augmenter, le triple, le quadruple, faut pas forcément jeter sur ton coup en disant ah, c'est mec, trop bien, je vais la prendre. Max, donc certaines puces sont des puces système qui servent à par exemple afficher la map. Tu as une map d'afficher. Donc tu enlèves là, t'as plus de map. Afficher la barre de vie des ennemis. Tu enlèves, t'as plus la barre de vie des ennemis. En fait, tout est customisable quasiment au niveau de ce qui est affiché à l'écran. Et si par exemple tu dis voilà, je suis en combat, la minimap, l'inutile de la minimap, j'en ai rien à faire. Bah dans ton build de combat, tu peux très bien avoir enlevé ça pour libérer de l'espace et donc peut-être mis des puces de combat plus puissantes. Alors, maintenant on va parler un petit peu de la narration parce que c'est pas qu'un jeu bourrin.
Bah oui, moi c'est ça qui m'intéresse.
Le côté bourrin est même pas forcément le côté le plus important du jeu parce qu'en fait c'est un jeu où la narration est vraiment maîtrisée du début à la fin. Alors pour donner, sans spoiler, pour donner des petits indices, quand tu fais le jeu une première fois, et ben en fait, il y a des passages au début que tu n'avais pas forcément remarqué, et quand en fait, tu fais ah ouais, ok, c'est pour ça que ce truc-là existait au début en fait.
Ouais, faut préciser que c'est un jeu qu'on refait.
Voilà, en fait, c'est tu refais pas forcément.
Je m'explique. Oui.
T'as 5 fins principales, qui sont les fins A, B, C, D. Tu vas faire le premier chapitre, qui va te mettre à la fin 1. La fin A avec tout. Tu vas faire le deuxième chapitre qui se superpose au premier que tu as fait avec tout, mais avec 9S. Ah, du coup, tu vas avoir des passages qui vont être, ils vont être ensemble où tu vas refaire la même chose. Ouais. L'avantage, c'est que comme tu as gardé tes niveaux, tu as gardé tes puces, tu as des quêtes que tu pouvais pas forcément faire au début dans la première route parce que les ennemis sont trop puissants. Tu peux faire à ce moment-là. Et tu as aussi des quêtes différentes entre les deux personnages. Chacun peut pas forcément faire les mêmes. Après, quand t'as fait ces deux chapitres, t'as un autre chapitre qui se débloque, mais qui a rien à voir. C'est vraiment la suite directe des deux premiers.
Voilà.
Et ensuite, t'enchaînes les autres chapitres pour arriver jusqu'à la fin finale, qui est la fin E. Où il y a un petit truc qui se passe à la fin, je peux pas trop dire. T'as vraiment la fin finale. Alors, les fins s'appellent comme ça, tout simplement, parce que en fait, t'en as 26. T'en as vraiment énormément.
Ouais.
Oh, mais.
Il y en a autant que d'êtres de l'alphabet, et en gros, les fins, toutes les fins principales, c'est des fins qui sont scénarisées sur des choses que normalement, quand t'es en cours de jeu, tu fais pas.
Ouais.
Par exemple, on va te dire, il y a un machin qui a agressé là-bas, va l'aider, pose pas la question, t'es pris dans le jeu, t'y vas. Mais en fait, tu peux très bien essayer de ne pas y aller.
Mmh.
Et si tu n'y vas pas, il se passe ce qui doit se passer, machin est buté, et en fait, t'as une fin du jeu. Mmh. T'as les crédits qui se déroulent, voilà, en mode rapide, puis t'as une fin. Voilà, et t'as la fin qui est notée. Autre exemple, t'as une puce système. On te dit très clairement, ben, c'est la puce de fonctionnement principale de l'Android qui contient l'OS. Si tu l'enlèves, tu meurs. Ben, si tu l'enlèves, ben, tu meurs. Voilà. Et t'as le crédit pour dire c'est la fin. Voilà, c'est... Et t'as plein de fins comme ça.
D'accord.
Et sur le premier run, j'en ai trouvé en gros deux. Parce que j'ai fait des trucs où on te dit vraiment fais pas ça, tu vois, je vais essayer quand même. Parce que tu penses que c'est un jeu plutôt classique et que quand tu vas le faire,
le jeu va t'empêcher de le faire.
Bah non, en fait, tu es libre de le faire. Voilà. Autre exemple, tu commences le jeu par un des meilleurs premiers niveaux de jeu que j'ai jamais lu. En fait, c'est très action, ils ont vraiment bien capté que quand tu veux accrocher un joueur, il faut que les 15 premières minutes soient vraiment très très bonnes. Mm-hmm. Sinon, si c'est possible, le joueur se barre. Et en fait, donc, c'est un jeu vraiment très très péchu. Et tu commences justement par une phase de shoot'em up. Là, tu peux la perdre. Tu peux mourir dès le début. Mmh. Si tu meurs dès le début, bah c'est la fin. Voilà. Parce que, en gros, tu dois aller à un endroit avec ton escadron pour faire un combat. Ouais. Bah, si tu meurs avant, tu meurs avant.
D'accord, ok.
Voilà. Tu vas. Donc, là, c'est... Et il y a plein de petites choses qui sont comme ça un petit peu. Il y a des choses qui sont vraiment ultra réfléchies. Comme tu joues deux phases. Donc tu refais quasiment une phase, et bien il y a des choses qui sont enregistrées de ta première phase. Mmh. Quand tu joues avec Toubi, il y a des choses qui sont enregistrées, tu joues avec notre perso, et bien tu les revois.
Ouais.
T'as vraiment plein d'idées comme ça. Autre exemple, le paramétrage de ce que tu veux faire, la luminosité, la distance où tu vois ton personnage, le réglage des sons, et bien tout ça c'est régulé en jeu. Ton perso est... Il y a quelqu'un qui fait ses contrôle et qui lui dit ben voilà, on va faire le contrôle, mais voilà ce que t'entends bien de ce côté, ce que t'entends bien de ce côté-là, niveau luminosité, est-ce que c'est bon, et t'as plein de choses comme ça où tout est fait pour en fait diminuer toute la petite dissonance de narratif que tu peux avoir,
ouais.
Et il y a plein de choses comme ça qui sont expliquées. Donc j'ai parlé rapidement des quêtes, bon, il y a plein de quêtes dans le jeu, certaines sont vraiment Félix. Voilà, faut pas se leurrer, mais il y en a d'autres qui ont vraiment un intérêt pour pouvoir en apprendre plus sur l'univers, en apprendre plus sur les gens et voir qu'en fait le monde c'est pas forcément un monde méchant contre les gentils. C'est pas une dichotomie parfaite. Mm-hmm. De ce côté il y a le bien, voilà. De ce côté il y a le mal, et t'as beaucoup de trucs qui se superposent.
Ouais, c'est ça qui m'intéresse.
T'arrives vraiment à t'attacher à beaucoup de personnages. Honnêtement, il y a des moments. C'est pas super sympa. Et t'as vraiment la petite larme à l'œil à des moments. Mais oui, il faut faire attention, il y a des quêtes qui sont FedEx, faut le savoir. Mm-hmm. Alors, je parlais de la dissonance ludonarrative. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Il faut sauvegarder automatiquement. Pourquoi ?
Parce qu'en fait,
tu vas sauvegarder toi-même, pardon. Tu vas sauvegarder toi-même. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, on considère que tu joues un Android.
Ouais.
L'Android, en fait, se sauvegarde sur un serveur distant, sur la base en orbite, et sauvegarde ses données. Voilà. Avant qu'il arrive un truc. Et c'est pas sauvegardé tout le temps, parce que comme ça, en fait, il sauvegarde.
Ouais, mais c'est toi quand même qui gère tes sauvegardes.
C'est toi qui gère tes sauvegardes.
D'accord.
Tu dis à ce moment-là, je sauvegarde, voilà. Ouais, mais, à des moments, ben, la base lunaire, ton sous-sol,
il
t'arrive
à se passer d'un coup, quoi.
Voilà. Il y a des moments où,
c'est pas ça.
Tu te dis, faut faire attention. Donc, je considère, je conseille d'utiliser la fonction pause de la PS4 à ce moment-là. S'il y a un enfant qui coule, pour faire attends, je m'en vais, je reviens. Donc, j'en étais où ? Ah oui, donc pas de sauvegarde automatique. Faut vraiment faire attention. Donc, si tu meurs. Il y a un système qui est un petit peu tous les jeux from Software, en fait, tu vas aller récupérer ton corps.
Ah oui, d'accord.
Tu meurs à un endroit, en fait, ce qui se passe, c'est que t'es mort. Donc en fait, ils reproduisent ton enveloppe avec tes dernières données qui ont été sauvegardées, donc pas l'XP, le cap. Voilà, donc pas tes puces, ils étaient sur toi, donc pas remise. Donc en fait, faut que t'ailles rechercher ton corps pour récupérer ton XP et tes puces.
Ouais, c'est bien pour ça, pour le coup.
Tu meurs avant.
Ouais, bah tu perds, ouais.
Bah du coup, tu... donc tu dois rechercher le deuxième ou pas ?
Tu perds, non, le premier donc disparaît. Ah, mais voilà, il faut rechercher celui d'avant. Hein. Bon, après, comme c'est en sauvegarde manuelle, il y a des sauvegardes. Bon, j'étais mauvais, j'allais chercher celle-là, histoire de pas perdre les puces que j'ai eu pas mal de temps à récupérer.
D'accord.
Non,
c'est bien pour ça que...
Mais le truc, moi, c'est un système à la Dark Souls. Et ça m'a gonflé dans Dark Souls. Si tu meurs avant de récupérer ton corps, du coup, il est perdu à tout jamais. Et ça m'énerve, ça. Et ça me donne envie d'arrêter. Est-ce que c'est frustrant à ce point-là ?
Alors, personnellement, je suis jamais mort deux fois de suite. Les combats de boss, je crois que je suis mort une fois, j'ai même pas récupéré mon corps. En fait, il te recharge directement à ta sauvegarde. On considère que le boss, t'as pas gagné, le mec il s'est barré. Quoi.
Ouais, il est pas salaud à ce point-là.
Voilà. Mais par contre, quand t'es en mode exploration, si tu commences à voir que le jeu est un petit peu tendu pour toi en mode normal, tu peux peut-être dire que t'as peut-être fait un mauvais choix de puce. Commence à te prendre trop de dégâts, faut peut-être plus miser sur les puces de soins et de régénération.
Là, c'est qu'après, du coup, tu peux modifier ton build. C'est ça que je trouve.
C'est ça.
C'est que du coup, tu peux te faire a priori 3 builds. Tu peux te faire un build plutôt défense, plutôt offensif, multi-cible, mono-cible, etc. Quoi.
Sachant que encore, t'as des sets d'armes qui sont différents, où les armes ont des propriétés différentes. T'as ton code, au début, t'en as un, mais je spoil pas en disant que très vite, on t'apprend qu'il y a des codes qui sont cachés dans le jeu, qu'il fallait les récupérer. Il faut explorer pour les récupérer. Les pods ont un tir différent. Plus encore derrière, tu peux acheter des capacités pour rajouter sur le pod. Genre exemple, lancer un gros laser, avoir des épées qui tournent autour de toi pour faire des dégâts corps à corps, avoir un bouclier. Et donc, si t'as trois pods, t'as trois compétences que tu peux activer. Tu peux les activer soit en même temps, donc avoir un niveau 1 de chaque, soit activer une grosse d'un coup qui te prend les trois niveaux de compétences et ça te fait des dégâts encore plus monstrueux. Donc tu peux vraiment, vraiment faire pas mal de choses au niveau gameplay. T'es vraiment assez libre. Donc, en durée de vie, alors je déconseille de faire le jeu en ligne droite. Vraiment, tu perds énormément de l'intérêt du jeu.
Ah ouais.
Parce que t'écoutes pas, que tu parles pas au PNJ, que t'écoutes pas la musique, qui te met vraiment bien dans l'ambiance. Une musique vraiment extraordinaire. Faut jouer à autre chose. Mais clairement, si tu veux tracer, c'est peut-être pas le jeu pour toi.
Si tu traces vraiment bout à l'autre le plus possible.
Si tu traces, je pense que tu dois en avoir pour une vingtaine de là.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Si tu traces.
Et c'est juste tu perds énormément. Ouais.
Et si tu traces, en fait, je pense pas que tu vas survivre à la route B.
Ouais.
Parce qu'en fait, t'as un passage qui va être une redite de ce que t'avais fait avant, même si c'est pas complètement superposé. T'as quand même une partie du jeu que tu refais. Et si on a absolument rien à faire de ce qui se passe et que tu veux juste faire de la baston, ça va pas être intéressant pour toi de refaire. Voilà. Mais c'est vraiment un jeu qui se base sur les blagues entre les personnages, leurs relations, les différents PNJ que tu peux avoir. Et à même un moment donné, il y a une pseudo-aventure textuelle. En gros, tu lis des livres sur ce qui s'est passé dans le passé. Mais vraiment où t'apprends tel personnage en fait ce qu'il a fait. Il y a énormément de lore. Toutes les armes ont un lore. Toutes les armes, même si c'est qu'une petite phrase ou deux petites phrases, elles ont vraiment un lore.
D'accord. Ouais.
Donc le jeu, et comme je disais, étant sur 60 FPS, il est parfois moche. Faut l'assumer.
Ce que tu diffuses là, Jean, à l'heure actuelle, les parties de combat, etc., sont fond de l'âme.
Ouais.
Bah, regarde quand tu vois les textures là, sur les choses qui sont diffusées des fois.
Ouais, mais je sais pas, vu que c'est du post-apocalyptique. Enfin, tu baignes en dynamique, vu que la dynamique peut apparemment vraiment courir, etc., je trouve que ça va encore.
Le jeu est vide, forcément, il n'y a plus grand monde, donc ça c'est logique. Le jeu est un peu terne, forcément, c'est un petit peu.
Eh ben oui.
J'aurais personnellement aimé qu'il y ait plus d'animaux, parce que t'en as quelques-uns, mais tu n'as pas beaucoup d'espèces. Tu vas surtout. Des élans ou des orignaux, je sais pas. Et des sangliers, voilà, quelques oiseaux parfois, mais il aurait pu avoir un plus. Tu vois des poissons, parce que tu peux. De l'argent, et voilà, et faire ce petit côté-là qui aurait pu être un petit peu plus poussé, mais bon, je le pardonne aisément. Compte tenu de l'histoire, de tout ce qui se passe et de la narration qu'il y a derrière. Côté combat, même les combats sont parfois scénarisés. C'est-à-dire, les combats contre les boss, en fait, tu vas voir des fois il y a des changements d'angle qui arrivent. Au moment d'imposer. En gros, t'étais vu de dessus, tu peux passer en vue de profil, trois quarts, ou vue de derrière, alors que t'étais pas comme ça. Simplement, pour donner plus de dynamisme dans les combats. Par contre, t'es en mode monde ouvert, là t'as pas de changement. L'autre désavantage que je vois, c'est la téléportation. Mais si on est un petit peu comme moi et qu'on commence à farmer, à explorer un petit peu tout dès le début, moi tu nous avons ouvert partout, c'est pas mal d'aller-retour. Elle débloque assez tard dans le jeu. Et donc là tu pleures en te disant mais pourquoi j'ai farmé comme un cochon
avant,
au début.
Il fallait que j'entends la téléportation.
Voilà, et c'est le petit moment où tu raches et après tu t'en sers
La petite larme qui coule et
l'autre côté qui est un petit peu en dessous, c'est bon, c'est un jeu japonais, pas les mettre des coups.
Bon,
en gros, t'as quand même une héroïne en talons de 20 cm et en mini-jupe, ouais, avec des boobs énormes et...
une méga épée de la mort qui fait.
Voilà. Sachant que tu as un mode autodestruction. Il y a un mode autodestruction qui n'est pas forcément indiqué au début, ou indiqué, tu sais pas trop ce qu'il fait. Il permet de faire péter sa jupe, en fait. Donc du coup, tu vois juste le haut, elle a plus la jupe, voilà, elle est juste en body. Donc, voilà, c'est le côté fanservice japonais dont ils auraient pu...
C'est ça, bah il faut contrer tout le monde. Hein.
C'est des androïdes qui ont été fabriqués pour se battre. Je suis pas certain que les talons aient été le plus indiqué.
C'est pour se battre avec style.
Voilà. Et ça est partie des rares choses dans le jeu qui sont pas expliquées. Parce que le bandeau sur les yeux est expliqué, les potes sont expliqués, les armes sont expliquées, alors...
Les talons, c'est pour se battre avec
les talons, alors j'ai cru entendre une... lire une interview de Kotaro qui disait « Parce que je kiffe les talons.
» Ok, on a fait le tour ?
On a fait le tour,
Vas-y.
J'insisterai juste sur les musiques, prendre le temps de les écouter. Et aussi, il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe. Pas forcément tout le temps bourriné, parce que être bourrin, c'est pas forcément toujours la meilleure solution, même en temps de guerre.
Ok, et bien voilà qui conclut nos trois recommandations pour ce mois d'août. Donc nous avons parlé de What Remains of Edith Finch, pour vous balader mélancolique et émotionnellement. On vous a parlé de Mortal Kombat X ou XL pour se foutre joyeusement sur la tronche en saignant beaucoup. Et finalement, Nier Automata pour voir un petit peu ce que peut donner la fin du monde avec des robots. Bon, et bien voilà qui termine notre émission de plus de 3 heures. Je sais plus si c'est en off que tu le disais, si c'était en off que tu le disais, Arnaud. Donc oui, l'émission de plus de 3 heures, on l'a faite là.
Donc,
Bah oui.
C'est ma faute.
Voilà, alors si vous êtes tombé ici par hasard et vous vous demandez qu'est-ce que c'est, eh bien vous écoutiez Papa à quoi tu joues et vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de Papa à quoi tu joues, mais aussi Papa à quoi on joue, l'émission dédiée au jeu avec les enfants, sur le site papapodcast.fr, là où vous pouvez nous faire, et je vous encourage à le faire, plein de commentaires, parce que j'adore y répondre, même si parfois ça prend un peu de temps, enfin quelques heures. On a souvent des échanges très constructifs et c'est chouette. Sinon, eh bien, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, évidemment, et sur iTunes, là où vous pouvez nous mettre plein d'étoiles pour qu'on soit encore plus visible, pour qu'on ait encore plus d'auditeurs, et pour que peut-être tous ces auditeurs se mettent à nous soutenir sur Tipeee, on n'en sait rien. Et voilà, sinon... Eddie, est-ce qu'on te retrouve quelque part sur internet ou tu préfères rester anonyme, un anonyme complet?
Alors je suis quasiment, je crois, sur aucun réseau social. Je suis...
mais si, t'es sur Facebook.
Je dois être sur Facebook, mais depuis les dernières politiques Facebook, j'y vais plus.
Bah non, parce que je t'ai envoyé des messages pour te partager les notes de l'émission, tu m'as jamais répondu.
Non, j'y vais plus parce qu'en fait, j'ai arrêté Facebook parce que je retrouvais jamais les posts des gens.
D'accord.
J'avais plein de pubs, mais les posts des gens, il y avait une espèce de sélection bizarre et tu ne retrouvais jamais rien.
Donc, vous pouvez croiser Eddie dans la rue. Si vous reconnaissez cette douce voix, vous pouvez dire Eddie, c'est toi. Et on vous prendra pour un fou.
C'est toi là-bas dans le noir.
Vous retrouvez également David sur plopcast.fr, sur ses podcasts diverses et variées autour du thème de la bande dessinée. Donc voilà, eh bien Arnaud, nous, on se retrouve dans 15 jours pour Papa à quoi on joue, je pense. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Bye, bye.